Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could beat gaming.
Salut à tous, vous êtes bien sur RNG, Radio Campus Paris 93.9 FM, et bonne année!
Bonne année, ouais,
bonne année 2025. Meilleurs vœux, meilleurs, voilà, profitez des jeux vidéo, de vos proches, allez au cinéma, faites-vous kiffer, voilà. On commence sans plus attendre. Ah, excuse-moi, bonjour Ulysse.
Bonjour,
excuse-moi.
Bonjour, Cyril.
Bonjour. Toujours en compagnie d'Ulysse, bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui, épisode d'RNG avec un sujet un peu plus léger, ouais, quand même, que, voilà, que les autres sujets de la saison 2. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de la coopération dans le jeu vidéo. On va parler de jeu coop, mais le sujet, c'est vraiment le concept de la coopération dans le jeu vidéo, en fait. Parce que moi, en fait, voilà, pour introduire vraiment rapidement, je m'étais dit, voilà, genre, la coopération dans le jeu vidéo, je trouve ça quand même hyper intéressant. C'est-à-dire, c'est une composante du média que je trouve assez fascinante, en fait, parce que on va avoir des œuvres jeux vidéo ludiques qui vont être pensées pour être jouées à plusieurs. Là où, par exemple, dans le cinéma, par exemple, on peut avoir des films qui peuvent être pensés pour être vus à plusieurs, des films, voilà, on se retrouve en famille devant, mais on peut toujours regarder le film tout seul si on a envie. Mm. Par contre, on va, voilà, tomber sur des jeux vidéo où, en fait, voilà, la coopération est une composante nécessaire, limite, à l'accomplissement de l'œuvre. Ouais. Donc, voilà, si Ulysse, tu peux commencer.
Ouais, bien sûr. Du coup, déjà, pour contextualiser un peu cet épisode et faire un peu un aparté, donc RNG n'est pas en ligne en termes de vidéo, si mm-hmm. vous avez cherché à nous trouver sur YouTube ou autre, parce que nos serveurs ont explosé. Enfin, plus sérieusement, vraiment, le PC qui avait du coup tous les rushs a été réinitialisé, c'était mon PC.
On nous a hack.
Et du coup, j'ai absolument tout perdu, donc on verra pour pouvoir capter les épisodes suivants, on verra pour trouver un peu une logistique. Mais donc, pour l'instant, on reste un format du coup audio, radio, podcast. Et c'est très bien comme ça. Et donc, aparté terminé. Donc, la coopération dans le jeu vidéo. Comme a dit Swill, on va parler de coop et pas donc de multijoueur. On va toucher un peu à ça, mais c'est vraiment la composante coop qui nous intéresse. Pour ça, moi, je vais vous faire un peu une sorte de rétrospective. En fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre le jeu vidéo avec le côté un peu préhistorique. C'est ce que dit Erwan Cario dans son livre où il parle du coup de l'histoire du jeu vidéo. Il fait une espèce de parenthèse sur qu'est-ce que la préhistoire du jeu vidéo et il évoque un peu le jeu vidéo avant même les bornes d'arcade. Et il y a du coup deux titres, notamment un pardon, que j'ai retenu, qui était Tennis for Two, un jeu de 1958, et où c'était sur un oscilloscope, en fait, où il y avait des raquettes et un petit match de tennis auquel on pouvait jouer. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la première fois qu'on a approché la forme du jeu vidéo, ça se jouait à deux. C'était pas c'est un mec tout seul face à son PC et tout, ou un écran. C'est une expérience où, comme on pouvait pas programmer une IA pour que le joueur puisse jouer tout seul,
il fallait un autre mec.
Il fallait un autre joueur. Et du coup, il y a eu Tennis for Two, donc 1958, avec Space War, pareil, où là c'était deux vaisseaux qui font piou-piou sur l'oscilloscope. Et ensuite, on a eu donc la Pongmania en 1972, où là, bah, pareil, c'était deux joueurs qui jouent au tennis, des scores à battre, les salles d'arcade. Voilà, grosso merdo. Ça, c'est vraiment l'aspect genre un peu préhistoire où on se dit bah, le jeu vidéo dès le départ c'était pensé pour jouer avec quelqu'un. Il y a là un côté plus compétition, mais l'expérience elle reste vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez pas y jouer tout seul. Ce qui ensuite vient, c'est l'expérience dans le salon, donc à la maison, où là, passé du coup les années 70, on arrive plutôt dans les années 80, on va avoir du coup l'arrivée des consoles de salon. Je vais venir après un petit peu sur les PC, mais déjà pour les consoles, on va avoir des jeux avec genre Secret of Mana, qui a été un JRPG à gros succès, qui pouvait jouer de 1 à 3 joueurs sur Super NES. On a eu les Mario Kart sur Super NES, pareil, au moins à 2 joueurs, puis Golden Axe sur Master System, pardon, qui est un beat'em all. Et donc le principe d'un beat'em all, si vous voyez, ou un beat'em up, c'est voilà, c'est un peu du Street of Rage, faut se taper sur des niveaux qui scrollent, voilà, faut vraiment juste se taper dans se bastonner dans des rues. Et du coup, on a eu après, bah, petit à petit, l'arrivée aussi du split screen. Donc, qui était à la fois donc compétitif et collaboratif. Et pour ça, bah, on est obligé de faire un peu une sorte de saut pour parler d'Nintendo 64 et de ces consoles où il y a l'arrivée de la 3D, où tout le monde, même je pense les plus jeunes d'entre vous, ont joué du Mario Kart, même maintenant avec la Switch, ou du GoldenEye à l'époque.
C'est toujours
et c'était toujours là, en fait. Et ça a forgé une expérience commune de la coopération, c'est c'est ce berceau, en fait. C'est que le jeu vidéo a toujours été pensé pour être partagé. Et voilà, quoi. Et pour terminer là-dessus, une des composantes que je trouve hyper intéressante, c'est le fait que pendant très longtemps, on avait les communautés qui faisaient des LAN ensemble.
Let's go.
Et ça, du coup, c'était vraiment plus milieu 80. C'est vraiment né dans les années 80 avec les programmateurs qui se réunissaient dans des salles. Et en fait, bah, y avait pas de PC portable pour avoir conscience de ça. Donc, fallait ramener sa tour, ses câbles, son moniteur. Le mec qui gérait la LAN devait penser, bah, du coup, au voltage, en fait, à se dire, est-ce qu'il y a assez de watts pour alimenter tous ces PC? Et du coup, la première chose qui est venue, c'est les démo parties qui sont apparues donc, dans les années 80 sous forme de copy parties où pirates et demo makers se réunissaient pour partager leur logiciel. Ça, c'est Wikipédia qui vous le dit. Mais en gros, voilà, avec donc des PC comme l'Amiga, l'Atari ST ou le Commodore 64, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils partageaient des fichiers, films, software, musique. Et ça s'est vraiment démocratisé dans les 90s, mais là, c'était bah, avec des jeux comme Doom, que vous connaissez, où la première version était à 4 joueurs, des Counter-Strike, des Quake, des Unreal Tournament, mais aussi, si on veut vraiment finir un peu là-dessus, bah, arriver un peu plus de notre époque, bah des Minecraft, des Trackmania, des jeux de stratégie en temps réel. À l'époque, c'était des Age of Empires 2. Maintenant, on a toujours des 4, 5, 6. Et voilà, donc le PC a vraiment été une communauté hyper fédératrice pour la coopération, pour le fait de se réunir, manger du fast-food, boire de la Red Bull, du Sprite, ce que vous voulez.
Let's go.
Et c'était un mood, en fait. C'est ce côté où c'est une identité aussi. Ça fait partie de l'identité des gamers de se rassembler dans des pièces jusqu'à pas d'heure
avec
et jouer à des
odeur.
Jeux. C'est ça, en fait. Et même si les consoles font partie de cette expérience-là, j'y viendrai un peu après en laissant la parole à Squill, bah, faudra quand même attendre plutôt les années 2000 où on pouvait connecter jusqu'à 16 Xbox, 8 GameCube, 8 PS2, si on voulait faire, par exemple, des LAN. Mais c'était quand même encore assez marginal et assez limité. Et ça, voilà, la référence, pour ça, pour le coup, c'est, je la tiens de Superpanda, qui avait fait un article sur jeuxvideo.com en 2005, où il expliquait comment faire une LAN. Et c'était un peu une sorte de Madeleine de Proust de lire le forum en mode « Ah, comment on organise une LAN en 2005 pour jouer à WoW et tout ?» Et voilà, le temps avance, les années 2010 approchent, et avec l'émergence du multijoueur, et surtout d'Internet, vraiment, qui se démocratise, on a perdu, pas le savoir-faire, mais le côté un petit peu genre singulier qu'avaient les LAN, où l'aspect que c'était assez à la mode, et ça c'est un peu pas tombé dans l'oubli, mais maintenant c'est très très rare que...
C'est plus simple de jouer à distance en ligne que...
C'est très rare de voir des LAN s'organiser, à part dans des événements, tournois et tout, mais sinon globalement ça se fait plus trop entre particulier à particulier ou joueur un peu casu. Mais c'est pour ça que je vais laisser la parole à Squill sur vraiment l'émergence d'Internet, et qu'est-ce que ça a provoqué sur la coop, comment est-ce que les joueurs ont pris ça?
Eh bien moi dans un premier temps... Pour illustrer l'apport d'Internet dans le jeu vidéo, j'aimerais parler de Animal Well. C'est un jeu que j'ai mentionné dans l'épisode qu'on a fait sur le bilan 2024. C'était mon GOTY de cette année, parce que c'est un jeu absolument exceptionnel. Mais là, ça va me laisser le... J'ai un peu plus de temps pour vous le présenter, plutôt qu'en 5 mots.
Oui, c'est vrai.
Plutôt qu'en 5 mots. Et c'est très simple. Animal Well, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est sorti l'année dernière, développé par une seule personne, qui s'appelle Billy Basso. Il a pris 7 ans pour développer ce jeu. Et qu'est-ce que c'est? C'est un Metroidvania. Pour les gens qui voient Metroid, Hollow Knight, par exemple, qui sont les jeux les plus connus de ce genre. Et en fait, c'est un Metroidvania qui, dans un premier temps, est très classique. Visuellement, on est clairement sur un jeu indépendant au style pixel art. Et en termes de découverte, on est vraiment sur un Metroidvania qui vraiment est très simple. Le jeu est muet, il n'y a pas de dialogue. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, de base, le Billy Basso avait fait des dialogues dans le jeu, mais en fait, à la fin, il s'est rendu compte que, en fait, si je retire toutes les lignes de dialogue avec les animaux qu'on rencontre, en fait, le jeu gagnait un peu plus d'aura mystérieuse, je vais dire ça comme ça, gagnait un peu plus en mystère, tout ça et tout, et je pense que ça a été une excellente initiative de sa part. Et en fait, le concept, c'est quoi? C'est qu'on se réveille, en fait, on a une sorte d'animal que même aujourd'hui les gens savent pas ce que c'est comme animal, en fait. C'est une sorte de mini hérisson, mais sans pic, en fait.
Ah, je pensais que ça ressemblait à une grenouille, moi. J'ai pas joué au jeu, mais...
Okay. On rencontre des grenouilles dans le jeu, mais c'est une sorte de petit rond. C'est une sorte de Kirby, en fait. Genre, voilà. Un petit rond doudou. Et en fait, il sort d'un bulbe, il sort d'une fleur quand on commence. Et en fait, on est laissé dans l'aventure, en fait. C'est vraiment... on est clairement dans un rabbit hole. Vraiment au sens propre du terme. Vraiment, c'est une fourmilière, le truc. Et en fait, le jeu a plusieurs fins. Et en fait, la première fin est assez classique. On est vraiment sur un Metroidvania assez simple. En fait, il faut aller chercher quatre artefacts. Pardon, là, j'arrive pas à articuler. On doit trouver quatre artefacts qui sont perdu dans ce royaume absolument immense. Et en fait, vous allez être, voilà, il faut trouver, je crois il y a une autruche, il faut trouver l'artefact du chat, il y a celui du lézard aussi. Et en fait, il y a le dernier dont j'ai oublié, mais c'est pas très grave. Et en fait, voilà, vous allez être totalement perdu et vous allez, voilà, de manière assez simple, avec des énigmes, comme les Metroidvania, c'est un peu un gimmick, genre une mécanique. C'est qu'en fait, c'est un jeu qu'il faut réexplorer plusieurs fois parce qu'en fait, vous allez débloquer des items qui vont vous permettre d'interagir avec l'environnement. Oui. Et par exemple, il y a certaines salles du début du jeu. Si vous revenez après avoir trouvé un artefact qu'on retrouve plutôt vers la fin, vous allez découvrir quelque chose de différent.
Ouais, comme dans Metroid.
Voilà. Par exemple, ça va être le lance-bulle qui est peut-être le plus utile, qui vous permet en fait de faire des bulles et vous pouvez sauter dessus et vous pouvez multiplier les bulles en fait. Du coup, vous pouvez atteindre des plateformes qui vont être beaucoup plus hautes, ce genre de choses. Et donc, le jeu, voilà, il est pensé dans cette optique de revenir un peu sur ses pas, tout ça. Et où est-ce que la coopération intervient ? En fait, elle intervient beaucoup plus tard parce que on peut finir Animal Well, on peut avoir la première fin de tout seul en fait. On peut, voilà, en solo totalement finir le jeu. Par contre, le jeu fonctionne en différentes couches. En fait, dans l'idée, il y aurait 4 niveaux. Le premier niveau est assez classique, trouver les 4 artefacts, finir le jeu. Le deuxième, il faut découvrir tous les œufs qui sont disséminés partout sur la map. Je crois qu'il y en a 64. 64 à trouver. Et ensuite, il y a la troisième couche, et c'est là où ça devient hyper intéressant, parce qu'en fait, je vous ai dit que c'est un jeu qui fonctionnait avec, voilà, des énigmes, ce genre de choses. Et le développeur, en fait, est parti dans un délire où, en fait, il est monté en niveau en termes de difficulté d'énigmes, en fait. Et en fait, comment la troisième couche va fonctionner, où, en fait, il y aura 16 lapins à trouver dans le jeu. Et en fait, voilà, il y en a pas beaucoup, mais ils sont extrêmement, extrêmement compliqué à trouver. Moi-même, en fait, j'ai réussi à faire la première et la deuxième couche tout seul. Par contre, pour la troisième couche, en fait, j'ai dû, voilà, me rendre sur Internet. Voir, en fait, l'élan communautaire qu'a lancé ce jeu, en fait, où des gens ont dû se rassembler pour essayer d'élucider tous les mystères de ce jeu. Et pour vous montrer un peu, on va dire, la difficulté des énigmes, en fait, il y a un moment dans le jeu, l'une des toutes premières salles où, en fait, on va rentrer dans une salle et il y aura une fresque murale. Et en fait, sur cette fresque, il y a un dessin d'un lapin. Et en fait, il y a 800 pixels. Et en fait, avec l'un des items de fin qu'on trouve à la fin dans le jeu, c'est la télécommande, vous pouvez ouvrir une salle et vous allez trouver du coup une machine qui vous permet de modifier les pixels sur la fresque. Vous pouvez mettre du rouge, du bleu, du noir ou du blanc. Et le truc, c'est que la fresque fait 800 pixels et donc vous devez faire un dessin avec ça. On sait pas quoi. Et en fait, si on va en dessous, on trouve en fait un morceau de puzzle, et en fait ces morceaux là vous allez en trouver un, et en fait vous devez trouver du coup 16 autres personnes qui ont trouvé des morceaux différents, les rassembler pour ensuite faire un puzzle et essayer de trouver quel dessin il faut faire sur le mur. Et donc là, littéralement, en fait, si vous êtes tout seul, vous pouvez pas accomplir l'énigme, en fait, parce que vous avez que un 16e de la fresque. Et du coup, là, forcément, ça a lancé un élan communautaire assez dingue, où des gens, voilà, se sont rassemblés. Moi, à ce moment-là, j'avais pas 16 personnes sous la main à qui, voilà, va achète Animal Well, s'il te plaît, va à ce moment-là, donne-moi ton puzzle et ensuite on fait le puzzle ensemble. Ouais. Non, j'ai pas ça. Mais par contre, Internet, il y a assez de chômeurs pour. Il y a assez de gens pour voilà, ils ont le temps et le courage. Et du coup, voilà, moi, à ce moment-là, dans le jeu, bah, en fait, je me suis totalement fié à ce qu'avait fait déjà la communauté avant. Et du coup, ils ont effectué ce puzzle-là qui, du coup, te mène à ce lapin. Et du coup, vous allez après, voilà, il y a d'autres différentes énigmes dont je vais pas aller plus loin, mais vous découvrez tous les lapins. Et en fait, je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant dans la manière dont le développeur conçoit le jeu. En fait, c'est, il y a cette idée de, il sait que, parce que j'ai vu des interviews, même dans les crédits, il l'explique, c'est qu'il sait que derrière, il va y avoir Internet qui va ce truc. Et du coup, le développeur, lui, il se laisse un peu aller, il peut se permettre des énigmes totalement, mais vraiment attiré, vraiment c'est
ouais, tiré par les
ouais,
cheveux,
ouais, c'est un truc de fou, genre vraiment ça relève de la folie parfois, et tellement c'est précis. Et il peut se permettre du coup ce genre de choses là parce qu'il sait derrière que la communauté derrière va avoir le courage et le temps pour le faire, pour élucider le mystère, et derrière aussi
autour, oui.
et aussi derrière vis-à-vis de la communauté, en fait. C'est à dire que quand on part de ce principe là en fait, on voit le jeu d'un œil différemment, parce qu'en fait on se dit que du coup tout est tout est possible en fait. Tout peut être un mystère en fait. On se dit que même encore aujourd'hui, Animal Well, on considère qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore découvertes sur le jeu. Mm. Parce qu'en fait, si on, voilà, si on part du fait qu'il est allé aussi loin, ben, en fait, il y a plein de choses. Ce serait, on va dire, culotté de dire qu'on a tout découvert. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore vues. Et du coup, le fait, voilà, ça. Même moi, ça m'a mis dans un mindset de me dire, en fait, je pensais connaître le jeu, mais en fait, je le connais pas du tout. En fait, je me dis, il y a tellement de choses. Et c'est un peu la sensation que te laisse un peu le jeu quand tu le fais, quand tu le finis, c'est le côté de le mystère qu'il y a, en fait, quand tu penses avoir tout, tout connaître du jeu, tu te dis, non, il y a forcément quelque chose d'autre derrière, en fait. Même sur YouTube, je pense qu'il y a vraiment des vidéos YouTube hyper intéressantes qui vous permettent de montrer l'élan communautaire qu'il y a eu pour élucider tous les mystères du jeu. Et là, du coup, ouais, les mecs ont réussi à élucider la quatrième fin. Et je pense que ce genre d'expérience-là n'était pas possible avant, en fait. Vraiment, c'est-à-dire qu'on se plaignait qu'à l'époque, les jeux étaient difficiles, ils l'étaient. Mais là, en fait, Internet permet, avec l'élan communautaire que ça peut permettre, de ce que, que les gens se rejoignent et permettent, ensemble d'élucider des mystères qui auraient été, je pense que tout seul, clairement, c'est très, très, très compliqué, voire impossible. Donc,
Ça permet de penser l'expérience autour de ça. Ça permet de dire que le jeu est pensé autour de ce côté communautaire et pas juste de faire quelque chose qui est difficile où on se dit peut-être ça sera trouvé, ça ne sera pas. Là, il y a quelque chose un peu de... En fait, il y a un côté carte au trésor qu'on donne un peu à ces joueurs en disant « Allez-y, il y a tant d'éléments à retrouver. Si vous les rassemblez ensemble, à la fin, il y a une surprise. » Et c'est quelque chose d'hyper gratifiant, je trouve. Et t'as raison que forcément, c'est avec l'arrivée d'Internet qu'on peut se permettre ce genre d'initiative, en fait. Et on le voit parce que moi, il y a un jeu que j'avais déjà cité quand on a fait les boss fights qui étaient Tunique, mais qui a aussi cette dimension très cryptique où, par exemple... le jeu te donne absolument aucun indice vraiment sur comment il fonctionne, à part un manuel qu'on trouve. Et au sein même du jeu, il y a une sorte de piste, je crois que c'est à peu près la seule quand même, vraiment une sorte de piste noire avec une porte dorée. Et quand on arrive à passer cette porte, il y a toute une sorte de secret. Enfin, c'est une zone en fait qui n'a pas vraiment de sens. Mais quand tu vas sur Internet, t'as des mecs qui sont allés sur Reddit parce que les développeurs avaient encouragé les joueurs à coopérer sur un secret qui était caché. Mais c'est ça qui est hyper amusant, c'est-à-dire que c'est à l'ère d'Internet qu'on peut se permettre d'avoir autant de couches et d'avoir une sorte de jeu méta qui te convoque, toi, en fait, en tant que joueur, à creuser en dehors du format quel jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est pas juste au sein du jeu, c'est non, il faut que tu prennes ton téléphone ou ton PC pour aller sur Internet, faire ta recherche sur des forums et du coup pouvoir enrichir ton expérience. Et c'est vrai que c'est grâce à Internet qu'on peut faire ça.
Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez RNG.
Après, ce qu'on peut aussi faire avec Internet et qu'on n'a pas encore trop évoqué, mais en même temps, je voulais aussi venir là-dessus, parce que... Là, on parle un peu de tout ça et du coup, peut-être vous vous demandez, ok, donc on fait une grosse rétrospective sur la coop. Le fait est que les jeux vidéo, c'est quand même fait pour être une expérience commune. Globalement, c'est à peu près le mot de la fin que je vous spoil. Mais donc, si on a voulu aussi faire, je pense, cet épisode, moi, en tout cas, c'est la problématique que je m'étais posée. C'est parce que parfois, on voyait souvent venir la question de est-ce qu'on peut encore jouer sur le même canapé à plusieurs ? Est-ce qu'on peut encore jouer avec ses copains, sa famille dans la même pièce ? Et pour répondre à cette question, vu que là on parlait du multijoueur et d'Internet, j'ai envie de vous dire, vous vous rappelez sûrement avoir joué à Black Ops ou World at War, à des modes zombies, à 4 joueurs, chez un copain, avoir ramené une manette, des bonbons et avoir passé des heures dessus. Et c'est, je pense, un peu l'émotion qu'on en a envie de vous rappeler, c'est que c'était possible il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'est toujours le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le multijoueur, même s'il est vrai, il y a de moins en moins de jeux coop, les FIFA sont toujours là, les Call of pareil. On a beau, avec Squill, beaucoup critiquer les formules qui reviennent, ça reste des jeux qui sont pensés toujours pour le côté tu peux y jouer avec tes copains. Et le multijoueur, même si c'est une part très très importante, on va peut-être faire une parenthèse sur les microtransactions, mais on le fait toujours sur ça, tout ce qui est jeu à service, mais ça reste qu'il y a un marché pour ça. Nintendo le sait très bien, les Mario Kart se vendent à l'appel, les Smash Bros pareil. Et du coup, avec l'arrivée du multijoueur, il faut quand même aussi se dire qu'il y a eu des jeux coopératifs qui fonctionnent très bien. Par exemple, les Left 4 Dead 2, les Dead by Daylight, les Phasmophobia. Mm-hmm. Et où pareil, donc là, c'est des titres, je vais faire un peu une sorte de récap des trois, où c'est juste des joueurs qui coopèrent pour vaincre un ennemi, soit pour passer de niveau en niveau, donc ils sont contre une IA, ou alors c'est des jeux asymétriques où on estime que donc il y a un ennemi, genre par exemple Dead by Daylight, c'est ça si je me trompe
c'est
pas,
ça, ouais.
C'est à un tueur qui a le skin que vous voulez, ça peut être Jason, un Xenomorph,
Michael Myers,
Slenderman, vraiment n'importe qui. Et du coup, à partir de ce moment-là, les trois autres joueurs qui sont confrontés à lui vont devoir s'entraider pour pouvoir s'échapper et réussir le niveau. Et c'est ça qui est aussi assez passionnant, c'est de se voir que, alors même que le jeu vidéo a toujours une part très compétitive, on le voit avec les jeux comme Marvel Rivals, Overwatch et tout.
La culture du tryhard, non ?
Voilà, c'est ça, de passer platine, diamant, de se dire, ok, le plus important, c'est
mon score. La méta.
Et ouais, exactement. On voit quand même qu'il y a un appétit, et je pense qu'on aime beaucoup dire cette phrase, mais ouais, depuis les débuts du jeu vidéo, c'est présent, c'est que les joueurs ont envie de coopérer. Il y a une envie de tendre la main vers l'autre et de s'entraider. Et on le voit sur, on parlait forum du coup pour Animal Well, mais on le voit même sur les forums plus un peu de simulation, quand on voit des mecs jouer à, là on en parlait avec un ami hier, du coup c'est Nico, qui parlait de Hell Let Loose, où il nous expliquait du coup qu'il a dit que c'était un débutant, il a dit ça au micro, les mecs lui ont dit « Ok, y a pas de souci, on va t'expliquer comment on joue.
Nice. »
Et d'un coup, tous les mecs le prennent un peu à part pour lui expliquer « Vas-y, la méta,
des
comment est-ce qu'il faut se mettre
dedans ?» Des quoi.
Exactement. Apparemment, il y a deux communes. Il a dit « Il y a genre celle-ci et il y a l'autre. » Ça reste un jeu sur la Première Guerre mondiale.
Ah oui.
Mais, mais c'est ça qui...
la triple alliance.
Mais c'est ça qui est assez amusant, c'est de se rendre compte que là, on voulait faire un épisode un peu plus, je pense, joyeux pour montrer que tout n'est pas non plus noir dans le jeu vidéo
et les
joueurs ne sont pas que toxiques. Il y a quelque chose quand même d'assez gratifiant et surtout genre assez appréciable dans le sens de voir que les joueurs sont pas tous des mauvaises personnes et c'est bien parfait de s'entraider et de jouer ensemble. Et je pense qu'il y a même un jeu dont on voudrait faire une petite parenthèse avant la recommandation pour parler de ça. Je pense que c'est le jeu qui essaie de mettre en exergue pourquoi est-ce qu'il faut être gentil avec son prochain. Donc, je vais laisser Squill en parler.
Death Stranding,
ouais,
j'avais
exactement.
Dans mes recos, mais du coup, on va en parler là, comme ça va faire la
c'est
transition.
C'est un reco.
Ouais.
Vas-y,
vas-y.
Hop.
Reco.
Let's go, reco.
Vas-y. Du coup, Death Stranding que j'ai pas fini. Je suis vers la fin. Suis vers la fin et il y a beaucoup de choses à dire sur Death Stranding, mais je vais me contenter, parce qu'on pourrait faire tout un épisode sur... On pourrait faire toute une saison sur Death Stranding. Mais là, c'est vraiment un jeu qui a la coopération dans... C'est sa colonne vertébrale.
Ouais, c'est son ADN.
C'est sa thématique principale. C'est tout est la philosophie, c'est la coopération en fait. Voilà, vous appelez ça Porter Bridges. On est dans un monde post-apocalyptique. Ça va être très long pour vous expliquer le scénario. Même moi, j'ai du mal à le comprendre. Et voilà, on est dans un. Si toi, peut-être, tu connais un peu plus mieux le scénario que moi.
Le scénario, pour faire un peu vraiment un peu bref et synthétique,
il y
c'est
a
que
eu
les États-Unis.
Explosion.
Ouais, non, mais les synthétiques. En fait, les États-Unis sont éclatés entre guillemets. Il y a plus de communication. Il y a plus rien. L'Amérique ne peut plus vraiment interagir entre elles. Genre chaque État, chaque ville.
C'est les États-Unis dans deux ans, en fait.
Voilà. Et du coup, on joue un livreur, vraiment Sam Porter Bridges, donc qui est joué par Norman Reedus, qui va essayer de reconnecter. Un peu en faisant des livraisons pour porter des colis aux gens, en branchant des sortes d'antennes réseau pour permettre de construire des routes, des ponts, des échelles, peu importe. Mais du coup, vu que l'Amérique, là, elle ressemble un peu à l'Écosse quand on voit les paysages, vraiment, c'est un
côté... L'Islande, un peu.
Ouais, l'Islande, il y a un côté hyper post-apo. Ça ressemble plus du tout à ce qu'on aurait pu imaginer des États-Unis. C'est très naturel. Le jeu te dit simplement, ok, vous êtes là pour reconstruire les États-Unis, donc pour reconstruire les liens entre les gens. Vous êtes là pour créer des connexions, créer des ponts. C'est pour ça que, vu que c'est Kojima, le mec s'appelle Bridges. C'est vrai que le mec a du mal à mourir, il s'appelle Die Hard Man.
Ouais. Très explicite.
Voilà. Mais derrière tout ça, il y a une poésie, en effet, qui est hyper proéminente. Et surtout, vraiment chère à Kojima vis-à-vis de l'humanité qu'il donne à ses personnages. Mm-hmm. Et donc à cette thématique, comme il dit Swill, qui est en fait de la coopération, tout simplement. Et du coup, voilà, genre, c'est ça qui est assez intéressant avec cette dynamique, c'est que. Il y a une façon de mettre en place la coopération, je vais laisser Souskou en parler, mais qui est assez novatrice en fait.
Bah, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que du coup, Death Stranding va être un jeu solo, malgré tout, mais vous allez avoir en fait, quand vous allez par exemple, donner un exemple, vous êtes en bas d'une montagne, et on vous dit, ouais, Sam, s'il te plaît, est-ce que tu peux ramener ces colis à la con tout en haut, s'il te plaît, et rapidement en plus, si tu veux avoir les 5 étoiles, tout ça et tout. Et du coup, vous allez vous lancer, vous pas avoir trop de poids, il y a plein de mécaniques à prendre en jeu, le gameplay est assez complexe, mais moi ce que j'adore c'est que du coup en fait vous êtes c'est un jeu du coup en ligne, faut quand même se connecter à un serveur et du coup vous allez voir par exemple une forme d'interaction avec les autres joueurs. Par exemple, moi je me souviens d'un truc qui m'avait sauvé la vie, et que du coup je devais escalader cette montagne en fait, et comme un imbécile fini, j'avais oublié de prendre des échelles et des cordes. Truc que tu dois faire si tu veux escalader, tu vois, genre, oui. genre. Et du coup j'étais en mode ah mais merde, mais putain je fais comment? Et là je suis tombé sur, je voyais sur ma, tu sais avec mon scanner,
ouais.
Mon scanner, j'ai vu qu'un mec avait laissé deux échelles et deux cordes, mais tu sais genre parfaitement
mis en place,
tu vois, j'avais pas à les positionner, parce que le mec avait fait littéralement la même quête que moi, et il avait laissé derrière lui du coup son, ouais. son échelle et son truc pour m'aider, et en fait c'est tellement une manière brillante que Kojima a, et c'est pas la première fois qu'on le voit, quand même il a des bonnes idées quand même, ouais. comme mec, c'est voilà le côté de indirectement en fait il arrive à mêler ses thématiques au scénario, au gameplay, et c'est vraiment un côté de ce moment là genre je me suis dit mais ok, je sais pas qui t'es, mec random sur PlayStation 5.
Mais je te laisse un petit pouce.
Mais je te laisse un petit like.
Ouais.
Et je pense à toi. Même là, je pense à toi. Big dédicace à ce mec. Big shout out.
Ouais, non,
et voilà. Et Death Stranding, c'est que ça. Et moi, ce que je trouve, voilà, petite cerise, c'est un jeu qui est sorti genre 6 mois, un an avant le Covid.
Ouais.
Un vrai. An avant que tout le monde soit enfermé. Et voilà, le côté un peu, peut-être.
prophétique de Kojima.
J'allais dire Nosferatu. Nostradamus de Kojima. Mais.
Ouais.
En espérant que Death Stranding 2.
Je sais que du coup, Death Stranding 2, apparemment, ils ont pris en compte que le Covid avait beaucoup changé le scénario, vu que ça a été intervenu, donc bah, il a pu expérimenter la théorie de ce qu'il traitait.
Mm-hmm.
Mais ouais, pour rebondir juste sur ça et un peu le souvenir qui te laisse, moi pareil, c'est. En fait, je me suis. Ce qui m'a marqué, parce que moi, je l'avais fait à sa sortie aussi en 2018, du coup, 2019. Ouais, 2019. Et en fait, ce dont je me suis souvenu, c'est que finalement, il y a des trajets que je faisais. Je suis pareil, dans les premiers niveaux, quand on n'a pas encore non plus énormément d'expérience, d'un coup, tu débarques, donc face à une montagne, quelque chose, t'arrives à toi l'escalader peut-être un peu tout seul avec ton matériel, mais comme auparavant, quelqu'un m'avait aidé avec une corde ou un mécanisme, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais lui rendre l'appareil. Genre, je vais littéralement lui rendre l'appareil et remettre une échelle. Je la laissais en place, tu mets le truc et tu te dis, bon bah, on verra si elle est utilisée ou non. Mm-hmm. Et je me rappelle que genre quelques mois après, quand je faisais les jeux, j'étais revenu dessus, et j'ai vu genre plus de 10 000 likes, un truc en mode, genre je me suis dit, ok, l'échelle que j'ai laissée, elle a été utile à des gens. Moi, j'y pensais pas plus, je me suis dit, ah, ça peut être cool qu'il y a. Et finalement,
il y a des milliers de personnes,
des milliers de personnes qui ont fait le jeu. Je sais pas comment le jeu, comment l'algorithme du jeu gère pour qu'il y ait pas 8 milliards d'échelles au même endroit et tout, et que mm-hmm. tu puisses tomber sur ça, tel ou tel artefact de joueur. Mais c'est hyper bien foutu. Et surtout, c'est une récompense qui n'a pas de valeur. Moi, c'est ça que je trouve assez précieux avec le jeu. C'est que la coopération vous rapporte pas de l'argent. Il n'y a pas de monnaie virtuelle pour vous dire, ah, vous pouvez améliorer votre personnage, ou votre gear, ou des skins. Le simple fait qu'un personnage vous met une note, c'est-à-dire qu'il vous met un pouce. C'est tout. C'est vraiment une appréciation, il n'y a rien de plus. Après, forcément, c'est ça qui est assez ouf aussi, c'est que ça ouvre une question un peu sur la satisfaction, de dire « j'ai fait ça pour avoir des likes, est-ce qu'on peut faire un croisement avec les réseaux sociaux, tout ça ?» Mais foncièrement, le jeu ne va pas vous tendre une carotte pour vous dire « vous faites ça parce que derrière, vous allez au paradis, vous êtes un bon chrétien. » Non, c'est juste, vous le faites et on va vous le signer en mode « ok, cool, mais tu n'auras pas de... » À part votre petit... c'est quoi le truc quand tu étais en CP c'est les bons points
ouais.
Voilà, à part ton petit bon point virtuel, tu vas pas pouvoir ouais. après t'acheter une créa avec et tout, non, y a rien de ça.
C'est un jeu unique et la satisfaction qu'il apporte, on la trouve
nulle part ailleurs,
difficilement
ouais.
ailleurs, quoi.
Mmh, voilà.
Donc peut-être une autre proposition.
Ouais, bien sûr. Du coup moi après, donc là vu qu'on est à la partie reco, j'avais noté Overcooked 1 et 2. Je sais que tu l'as peut-être.
Ouais.
Allez, bon bah
on va en parler.
On va en parler tous les deux.
Overcooked qu'on a fait tous les deux.
Bah oui, en plus c'est ça, c'est des jeux qu'on a expérimenté ensemble, donc autant qu'on en parle ensemble, je trouve ça brillant. Je trouve ça fantastique.
Y a rien à dire.
C'est ouais, c'est un des meilleurs jeux coop, c'est-à-dire que vraiment à jouer sur son canapé. À 2, c'est bien, à 3, c'est cool, à 4, c'est incroyable, c'est un chef-d'œuvre.
Ouais, mais ouais. Vraiment, mais sur un chef-d'œuvre, genre, c'est. Il y a, voilà, c'est vraiment. Je pense que je préfère le 1.
Moi aussi,
au 2.
J'allais dire ça.
Je trouve que les niveaux du 2 sont. Ça renouvelle pas spécialement la formule. Le 1 vaut le coup et il est, mais. C'est-à-dire, genre, il y a peu d'expérience comme. On a vu, genre, après Overcooked, des jeux comme Moving Out.
Ouais.
Où il faut, là, c'est des déménagements. Mais oui, on devrait vous présenter Overcooked rapidement. On n'a même pas présenté.
Ouais.
En fait, c'est tout simple. C'est un jeu en fait, où vous devez faire de la cuisine. En fait, c'est plein de petits niveaux où en fait, vous avez des commandes qui s'empilent.
Ouais.
Et en fait, c'est un peu le côté contre la montre. Il faut faire le plus de commandes possible, bien les cuisiner. En fait, c'est ça c'est un jeu qui récompense l'esprit d'équipe.
Mmh. La communication.
Vrai. La communication, surtout. Et, mais dans les. Voilà, c'est clairement, vous allez découvrir des facettes de vos
amis, personnalité, voilà. Ouais. Mais oui, c'est ça, c'est si vous avez déjà joué à Cooking Mama, qui était un peu genre un jeu très culture DS et tout, c'est la même chose, si vous faites vos recettes, mais le fait de devoir composer avec les membres de votre équipe pour s'envoyer des steaks, s'envoyer du poisson, le couper, le
cuisiner,
pas se marcher
le faire, dessus,
ouais,
tout ça,
c'est, ça donne c'est vraiment un degré de communication où quand ça marche vraiment parfaitement, quand vous faites un niveau 10 fois pour avoir les 3 étoiles
ouais.
ou le truc, Et vraiment, genre, ça roule sur des roulettes. Vous êtes vraiment comme une cuisine de chef étoilé où ça.
C'est
ça
The Bear. C'est The Bear.
Ouais, tout le monde a son poste. C'est parfait. Et c'est vraiment une symphonie. Et à voir et à faire, quand vous finissez, quand vraiment on perfecte un niveau, il y a un sentiment
de camaraderie.
Ouais, c'est ouais. Là où le 2 a moins ça, parce que le 2, je trouve, il gère moins bien sa courbe de progression. Mm. Il est plus varié dans les niveaux. Il y a plus de recettes différentes et de level design un peu chouette en vrai. Mais la difficulté est moins. En fait, c'est comme les Souls. Elle arrive moins à venir vous chercher, à vous pousser, à vous dépasser. Elle est peut-être plus accessible. Et du coup, finalement, la récompense est peut-être un peu moins haute. Mm-hmm. Mais ça reste. Les deux sont des classiques absolus.
Voilà, vous avez des niveaux parfois qui sont en mouvement. Moi, je pense à celui du bateau. Vous cuisinez, en fait, quelque chose de très simple, des soupes. Et en fait, pour faire des soupes à l'oignon, il faut genre découper 3 oignons, ça prend genre une demi-seconde.
Ouais.
Genre, faut découper les oignons, les mettre dans la casserole, attendre que ce soit prêt et vous les servez. Sauf qu'en fait, le niveau bouge et du coup, les casseroles et tout bouge. En fait, il faut bien se positionner et ça demande de la coordination, du timing. Mmh. Et c'est très militaire dans l'idée. Et non, je pense que c'est une expérience vraiment si vous êtes à plusieurs, mais foncez sur Overcook.
Ouais.
C'est exceptionnel.
Ouais. Et du coup, pour moi, deuxième recommandation. Du coup, tu avais Overcooked et Death Stranding, c'est ça?
Ouais, voilà.
Moi, du coup, la deuxième que j'avais, qui rejoint l'autre, c'est Unravel 2. Unravel 2, c'est pour vous contextualiser, c'est un jeu indépendant, avec des guillemets quand même, mais d'Electronic Arts, parce que du coup, ils ont une filière un peu indé. Et c'est des petites marionnettes de chiffon, de laine, en fait, des pelotes de laine, qui se déplacent dans des niveaux magnifiques. C'est une sorte d'hyper réalisme, parce que ça se veut photoréaliste, mais en étant quand même un peu plus augmenté. Et en fait, du coup, le 2 se joue en coopération. Je crois qu'on peut le jouer tout seul avec l'IA qui contrôle l'autre peluche. C'est pas très intéressant. Quand vous le faites à deux, c'est vraiment fun. Mm-hmm. Et en fait, c'est tellement beau, c'est tellement apaisant. Moi, je l'avais fait du coup avec Nico aussi. Et c'est un jeu qui m'avait pas mal marqué, j'y pense, de temps à autre. Juste parce que l'ambiance était tellement belle. Et c'est un jeu d'énigmes où voilà, vous avez votre niveau, vous pouvez défaire votre pelote pour vous créer des lianes, vous balancer. Donc vous allez vous défaire un peu de votre côte de laine pour que votre pote puisse sauter dessus et se balancer. Et d'un niveau à l'autre, ça crée vraiment pareil, une sorte de synergie qui est hyper folle. Et voilà. Si je devais du coup maintenant faire une petite conclusion là-dessus, voilà, la coop, c'est hyper important le jeu vidéo. C'est ce qu'on a voulu essayer d'expliquer aujourd'hui. Que les joueurs et les communautés de joueurs peuvent être positives, peuvent apporter beaucoup de bien. Puis c'est important de créer autour de ça, d'Internet, de tout comme on l'a dit. Avant de laisser la parole à Swill sur le mot de fin aussi, je voulais peut-être faire un petit shout-out à Joseph Fares, qui avait gagné du coup le GOTY jeu de l'année au Game Awards pour
It Takes Two 2021,
voilà,
je crois,
c'est ça,
2022.
Qui prépare également un nouveau jeu et
Fiction qui a l'air super bien.
Et si vous voulez, parce que là les recommandations c'est pour vous pousser à jouer avec vos amis, jouer avec des proches, si vous voulez, je pense faire un jeu quand même vaut aussi le détour. On l'a pas mis en reco, mais c'est aussi un excellent titre à faire. Et voilà.
Voilà. Bah moi, je ne vais pas rajouter grand-chose, dire qu'on ne se rend pas compte à quel point les plus grandes expériences de cette dernière décennie sont des expériences quand même assez coopératives.
Ouais.
Les Souls-like, c'est le genre
de
l'ère moderne. Et c'est des expériences qui sont pensées à plusieurs.
Oui.
On peut y jouer à deux, on peut invoquer nos amis, tout ça et tout, mais derrière aussi, toute la mécanique des messages, on peut laisser au sol, les petits fantômes qu'on voit. On n'est jamais vraiment seul dans un Souls-like.
Ouais.
Et c'est... Voilà, on se rend pas compte à quel point la coopération, parfois, elle est omniprésente. Donc voilà, jouez à des jeux ensemble. Soyez gentils, bordel. Aimez-vous, putain, fait chier.
Surtout qu'en plus, on l'a pas dit, mais c'est vrai que, en parlant de Souls, il y a donc le prochain... c'est quoi? C'est Elden Ring...
Night Rain,
qui est vraiment un jeu coop.
À trois. Soit tout seul, soit à trois. Tu peux pas jouer à deux. C'est, okay. C'est pour les troupes.
Qui est une expérience pensée autour de ça. Et comme dit Swill, le Challengers de Legendel. Mais non, comme dit Swill, c'est ça, c'est que, par exemple, un Souls, on l'avait pas trop évoqué, je crois, dans notre épisode sur les boss fights, mais n'y jouez pas seul. Ne soyez pas enfermé face à votre télé, face à votre moniteur. Jouez-y en ayant soit un tuto, des potes à qui en parler, des guides, parce que c'est un jeu qui est fait profondément pour échanger autour des mécaniques.
C'est tout backseat, en fait.
Ouais. Hein. On pourrait se dire, il y a des jeux où on pourrait se dire, ah, c'est de la triche et tout. Dans un Dark Souls, il y a tellement de mécaniques, c'est tellement riche que vous pouvez vous aider. Et c'est vraiment pas un problème.
Miyazaki lui-même, le créateur des Souls-like, qui dit lui-même que moi, je m'en fiche, genre, je prends les trucs les plus cheatés, je mets d'internet, je regarde comment les jeux sont faits parce que je suis nul aux jeux vidéo, en fait. Genre, si même le créateur, il vous dit, genre, tricher, tricher, en fait.
Voilà, c'est ça. Et au-delà même de ça, c'est vraiment une partie inhérente. C'est que c'est pas, je pense, au point d'un Animal Well, mais je suis persuadé, là, en ayant du coup fini donc Sekiro, Elden Ring, et là, en ayant bientôt fini Demon's Souls, c'est des jeux qui sont pensés pour être. Pour pas devoir en parler. Mm. Je pense que vraiment, c'est passer à côté de l'expérience d'en jouer hors ligne, justement, mm-hmm. et donc de ne pas avoir accès aux messages, avec vous dire attention, piège,
doigt métro.
Doigt métro. ou alors, justement, dire juste faiblesse, feu, des trucs tout bêtes, mais qui parfois, moi, m'ont fait débloquer un peu un tic, même sur Demon's Souls, en mode faiblesse, jambe, et de me dire ok,
attention,
le chevalier de la tour.
Des trucs tout bêtes,
d'un coup, on se dit ok. Et sans ça, vous auriez perdu, je pense, des très précieuses heures. Où vous seriez fatigué et vous auriez dit « Eh, jeu de merde, pourquoi je me fais
et
chier là-dessus ?»
Et vous serez passé à côté de tellement de choses.
C'est ça.
Simplement.
Donc ouais, comme dit Swill, jouez à des jeux vidéo, partagez les jeux, parlez-en, et voilà.
C'était RNG, Radio Campus Paris, 93.9 FM. Encore une bonne année à vous, et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode.
Salut, salut, ciao.
Vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection. Dude, I could be gaming.